Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui.
Oui.
Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change.
Paradis, ploum, ploum.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Boomerang 89.7 FM dans l'émission Un petit coin de paradis.
Bonjour Lydie.
Bonjour Laurent.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Jean-Paul est de retour, vous l'aviez entendu dans un premier volet.
Aujourd'hui c'est Jean-Paul le fils, le retour, la revanche, la vengeance.
Voilà, on est très content que Jean-Paul ait accepté de revenir.
Oui.
On va en savoir plus sur lui, sur son beau parcours.
Malgré toutes les tortures qu'on lui a infligées la fois dernière.
Et on va commencer par une chanson de Nicolas Daquin qui s'appelle « La petite pluie ». Dans l'album sorti en 2012, Briques rouges et sable d'or, que nous apprécions particulièrement, on écoute.
C'est un parapluie qu'on replie, privé de sortie, qui s'ennuie et qui se lamente et qui rêve d'une pluie battante. Quand le ciel est bleu, moi je ne peux pas être heureux aussi peu que je me morfonds, entouré de murs et de plafonds. Une petite pluie, je t'en prie, te supplie, pour que je sorte, que je sente ta main qui m'emporte dans un long couloir. Moi j'attends du matin au soir dans le noir que le soleil parte, que je quitte ce putain d'appart. Je suis comprimé, déprimé, je peux pas respirer, je vais crever. Je voudrais revivre, que le ciel maintenant me délivre. Une petite pluie, je t'en prie, te supplie, pour que je sorte, que je sente ta main qui m'emporte. Par une main douce, ressentir les premières secousses, faire les courses, la chaussée brillante, les autos, la ville tonitruante. Sur mon toit ça claque, quand tu fais plic-plac dans les flaques, moi je craque. Le chant de la pluie, ça y est, tu te prends pour Jim Kelly. Une petite pluie, c'est parti, c'est joli. Pour que je sente ta main qui m'emporte. De retour, hélas, je suis tout flasque, je reprends ma place dans le sas. Même pas au salon, on me jette tout près du paillasson. Voilà, c'est fini, c'était l'histoire d'un parapluie qui s'ennuie. Une chute s'impose, une chute, je ne vois pas autre chose qu'une chute de pluie sans répit infini. Que le ciel sombre, qu'il en tombe des trombes. La 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 la.
Que c'était beau, on avait envie de danser là, hein. Bravo à Nicolas, avec Sylvia, voilà.
Eh bien, nous allons retrouver maintenant Jean-Paul, qui a accepté gentiment de venir nous raconter la suite de ses aventures une deuxième fois. Alors Jean-Paul est originaire de Bourgogne, je vais dire, du côté de Châlons, pas loin de Tournu, pas loin d'Autun même peut-être. Non, c'est plus loin. Loin de Marseille en tout cas. Parents instituteurs, tous les deux. Il va aller étudier à Lyon, mais ses parents vont partir avec lui dans ce qu'on appelait l'Indochine, qu'on appelle maintenant le Vietnam, dans l'Indochine du Sud, pendant quelques années. Et Jean-Paul va rentrer en France seul pour faire ses études à Lyon, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais pas si j'ai une très bonne mémoire.
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. Tu peux corriger, hein ?
Oui, tout à fait. Bon.
Il rentre seul, donc il est pensionnaire, si je me souviens bien. J'avance. Il fait ses études. Il entre dans une école qui s'appelle l'ENSAM, École Nationale Supérieure des Arts et Métiers.
Oh, tu vas trop vite, là.
Je vais trop vite. Qu'est-ce que j'ai manqué ? Vas-y.
J'ai fait mes études à l'INSA de Lyon, et ensuite j'ai commencé une carrière d'enseignant.
Ah, autant.
Et en 84, je suis venu, effectivement, à l'ENSAM, au centre de Lille.
C'est ça, oui, oui. Je m'étais trompé d'école d'ingénieur. Tu as fait une école d'ingénieur qui t'a mené à l'ENSAM à Lille parce que tu travaillais avec des collègues de Lille sur un sujet de recherche et ils t'ont indiqué que le directeur allait partir et qu'eux n'avaient pas la qualification, c'est-à-dire le doctorat que toi tu avais, un doctorat S-Sciences, tu as passé en 69. Et donc, ils t'ont proposé de postuler au poste de directeur, ce que tu avais fait.
Directeur de labo.
Directeur de laboratoire.
Oui, oui.
Il y a des subtilités qui m'échappent.
Ah non, alors à l'époque, effectivement, le directeur du laboratoire de mécanique était en même temps directeur du centre de l'école.
D'accord.
Et il venait d'être décidé de découpler la fonction. Ce qui fait que moi, j'avais le laboratoire de mécanique.
D'accord.
Et qu'en même temps, il y avait un autre directeur, un directeur nommé pour la gestion du centre. Et je dois dire que ce directeur était Francis Louage,
oui.
Ancien élève de l'ECAM.
Ah oui.
Donc, mais qui a été pour moi un directeur absolument remarquable. Et avec lequel, bien que nous ayons des idées assez différentes, malgré tout, il a été un directeur qui a été apprécié de tous.
Alors, je voudrais dire deux choses qui te caractérisent, je pense. Premièrement, je vais revenir un peu en arrière et revenir à 1968.
Très bonne année.
S'il vous plaît. Ton année de naissance.
Oui.
Tu veux parler de l'année de mon service militaire.
Oui, puis il y a eu d'autres événements.
Où Jean-Paul est donc dans son école d'ingénieur, c'est ça dont le directeur a été décisif, où il est parti, où on ne sait pas, je ne sais pas. Et en tout cas, se crée une sorte de... Il n'a pas aimé le terme colcause que j'avais employé la dernière fois. En tout cas, un comité qui dirigeait l'école.
Oui, donc, commission tripartite.
Oui. Une commission tripartite, voilà.
Ah, oui.
Et donc, c'est un engagement, non pas politique, mais plutôt syndical, assez marqué, qui est sa caractéristique.
Voilà. Et qui a amené beaucoup de réformes dans l'établissement.
Voilà, c'est important à dire. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'une fois qu'il a eu intégré l'ENSAM dans sa succursale de Lille, il faut savoir qu'à l'ENSAM, qui est une école très ancienne, est-ce que Duc de La Rochefoucauld, c'est le fondateur, je me souviens.
Voilà, c'est ça, voilà. C'est lui qui a créé l'école dans sa propriété.
Ah oui, très bien. Et donc, dans cette école, il y a une tradition très ancienne, mais qui se manifeste un petit peu de manière, selon Jean-Paul, un peu négative, les traditions, d'accord, mais par le bizutage. Et c'est des pratiques qu'il n'approuve pas du tout. Et il s'est battu contre l'association des anciens élèves qui faisait non pas table ouverte, mais maison ouverte en venant à l'école comme s'ils étaient chez eux. Il en a poussé quelques-uns vers la sortie. Voilà, je dis ça, c'est pour caractériser l'esprit.
Oui. Alors là, je donne une image peut-être un peu négative de l'école. Les traditions ne représentent pas tout. Et ce que je dois dire, c'est que j'ai pu apprécier la très grande compétence de la plupart des enseignants qui étaient dans ce centre, ici à Lille. Et j'ai découvert que la mécanique était vraiment une science peut-être plus profonde que je n'avais encore imaginé.
D'accord.
Et qu'il y avait vraiment des experts en fabrication, en métrologie, sur les engrenages, par exemple, enfin, des problèmes mécaniques qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne peut l'imaginer généralement. Et vraiment, c'était une compétence de métier qui vraiment était que j'ai pu apprécier tout au long de ma carrière ici.
D'accord, très bien. Anecdote avant l'étape où on en est, Jean-Paul vient une première fois pour travailler avec ses petits camarades. Il arrive à Lille sous un grand soleil parmi les palmiers, etc. Non, il fait un temps absolument exécrable et il prend immédiatement la décision de jamais plus venir s'installer à Lille, y travailler peut-être.
Ça ferait une bonne idée de film, ça. Hein.
S'il vous plaît.
On passe le panneau du Nord-Pas-de-Calais et il pleut.
Et la pluie tombe.
C'est bizarre, hein, j'ai déjà vu ça.
Mais donc, il fera une carrière de... chef de laboratoire, directeur de laboratoire.
Oui, directeur de laboratoire. Oui, alors les choses se sont un peu compliquées parce que donc j'avais la direction du laboratoire de l'ENSAM, mais très vite est apparu l'intérêt qu'il y aurait à créer un laboratoire commun avec l'université, avec l'IDN qui va devenir bientôt l'école centrale de Lille.
Centrale de Lille, oui.
Donc on a créé un laboratoire commun.
D'accord.
Au bout de la première année de mon séjour ici à Lille.
D'accord.
Donc sous l'impulsion d'un collègue que j'ai beaucoup apprécié à l'université, enfin... qui s'appelait Pierre Michaud.
Et Pierre Michaud, très bien. On reprend la suite de tes aventures, si je puis dire, après la pause musicale que va nous offrir Lydie.
Alors c'est Jean-Paul qui m'a suggéré une chanson, une très belle chanson qui est un peu exotique pour nous. Enfin, les auditeurs de Boomerang connaissent bien les émissions en portugais, mais...
Voilà, c'est un souvenir de mon séjour au Brésil, où j'ai eu l'opportunité de rencontrer, de voir Vinicius de Moraes, qui est un poète absolument remarquable, et en particulier apprécier sa chanson « La Garota de Ipanema ». Ipanema, c'est la plage qui prolonge la plage de Copacabana.
D'accord.
Au bout de laquelle se trouve le rocher de l'Arpoador, où on peut faire du surf.
Tu as essayé le surf ?
Non, je suis nul.
Alors on y va.
Allez, on y va. Merci.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Estou tão sozinha. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinho, ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe,
a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Ah,
se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Un petit coin de poésie. Cette fois-ci, j'ai choisi un poème de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Ça s'appelle « À une passante ». La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, balançant, le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue, moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide, où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Et on écoute la version chantée par Georges Chelon. Il a fait un album, même plusieurs albums.
Plusieurs albums. Il a mis en musique et chanté tous les poèmes de Baudelaire. Je crois que ça fait 5 ou 6 CD. Et on rappelle que Georges Chelon, qui est moins connu aujourd'hui, mais qui l'a été énormément dans les années 60-70, on rappelle que Georges Chelon, qui entre dans l'âge, vient chanter prochainement à Roubaix. Et où ça ? Au camion.
Allez, on écoute ça. À une passante.
La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant. Dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue main sans grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Et voilà, nous retournons à notre entretien avec Jean-Paul.
Voilà, on retrouve Jean-Paul, qui est donc directeur de laboratoire à l'ENSAM dans son établissement de Lille.
Je pense que tous les Lillois connaissent à peu près le bâtiment où se trouve l'ENSAM, à côté de l'Institut Pasteur. Donc c'est un établissement qui a été créé aux alentours de 1900, si je me souviens bien, à la demande des industriels du Nord.
D'accord. C'est un bâtiment qui est de très grande taille. Hein.
Oui, très grande taille et très beau.
Très beau.
Très beau. Enfin, vraiment dans le style de cette époque. Enfin, qui se visite assez régulièrement pour sa qualité architecturale. Et bon, là-dedans, bien entendu, ont dû être créés des ateliers. Certains ont déjà repéré sans doute la cheminée qui subsiste, qui est, date de la grande époque où il y avait une fonderie importante. Parce que
dans l'école, dans l'école.
Dans l'école, oui.
Ah oui, oui.
Mais donc, on y retrouve encore beaucoup d'équipements anciens. On a monté une bibliothèque à l'endroit où se trouvait la centrale thermique qui oui. alimentait l'école avec des grosses machines qui sont assez spectaculaires.
Il y a plusieurs enseignements dans cette école. Enfin, plusieurs matières, je veux dire.
Ah ben, bien entendu.
Matières techniques. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes ?
Pour ce qui me concernait, c'était plutôt...
La mécanique.
Énergétique. Plutôt énergétique.
Énergétique, oui.
C'est-à-dire échange de chaleur et thermodynamique et turbomachines. Donc les machines qui vont avec, enfin, industrielle, mais autrement, il y a la mécanique du solide, il y a bien entendu de l'électronique, de l'informatique, qui sont devenus des thèmes extrêmement importants. Et puis enseignement de langue également pour les étudiants, une formation très générale,
très générale, oui.
Centrée sur la mécanique. Bon, alors le nombre d'étudiants...
Quelques centaines.
Ça regroupe deux années d'études, les deux premières années d'études.
D'accord.
La troisième année se faisant à Paris.
D'accord.
Bon, et donc là, c'est un peu plus d'une centaine d'étudiants, chaque ouais. promotion. Quoi. D'accord.
Et une quarantaine, une cinquantaine d'enseignants ou de chercheurs.
À peu près, oui.
D'accord.
Je me suis pas préparé, donc j'ai pas gardé un souvenir très précis.
Donc c'est une école privée ?
Non, publique.
Ah, c'est public. C'est elle qui est privée. C'est l'ICAM qui est privé. Voilà. Okay. Voilà, c'est public. Donc c'est financé par l'État.
C'est financé par l'État.
D'accord. Oui,
entièrement. Et donc la direction générale est à Paris. Et il y a sept centres au niveau national.
Dont celui de Lille.
Dont celui de Lille, qui n'est pas le plus ancien. Le plus ancien, c'est celui qui était à Chalon-sur-Marne.
Chalon-sur-Marne.
Comme on disait.
Chalon-en-Champagne maintenant.
Chalon-en-Champagne. Il y a Cluny. Alors, c'est un peu une spécialité des premiers centres créés d'être hébergés dans des anciens monastères.
Ah oui.
Donc, il y a Cluny, il y a Angers, il y a Chalon, enfin, non, Chalon est un peu particulier, je crois. Mais autrement, il y a eu des centres plus modernes, comme Bordeaux, comme Aix-en-Provence aussi.
Oui.
Il y a dû être un établissement religieux, je crois aussi.
Oui.
Et c'est... puis, il y a un nouveau centre qui s'est créé à Metz.
Combien de temps tu y as travaillé ?
17 ans.
17 ans.
Et j'ai partagé le même bureau avec toujours la même personne qui alors, était donc mon adjoint. C'est celui qui m'avait conseillé de venir à Lille.
D'accord.
Et qui est devenu mon supérieur à partir du moment où il a pris la succession de la direction du laboratoire commun lillois.
Est-ce qu'en 17 ans, il y a eu des changements notables ou des évolutions remarquables dans les enseignements, dans la pédagogie dans...
Il y a eu un grand bouleversement dans l'administration générale de l'école. Il y a eu, quand je suis arrivé, il y avait une très large autonomie laissée aux différents centres. Et Lille était particulièrement dynamique, sous l'impulsion en particulier du directeur auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, avec des collaborations au niveau régional extrêmement importantes.
Oui.
Et puis, à un moment donné, il y a eu un désir de centralisation, d'uniformisation des différents centres, qui était souhaitable peut-être pour un certain nombre de centres qui étaient plutôt en retard, mais qui a posé quand même sérieux problèmes. Actuellement, il y a même un centralisme que les collègues que je rencontre maintenant
excessif.
Trouvent absolument excessif.
Oui. C'est curieux cette envie de contrôler, en fait, parce que je crois que, alors on pourrait dire, dans la centralisation, le positif, c'est faire en sorte que les moyens et les, je sais pas, s'agissant d'une école, la pédagogie, soit appliquée à peu près de même manière partout. Pourquoi pas, c'est même, on ne voit pas pourquoi ce serait obligé.
Oui,
mais il y a le contrôle pointilleux qui devient pesant quand on est des établissements.
Il y avait peut-être une certaine mise en ordre à faire.
Sûrement.
Bon, j'y ai participé implicitement à cette centralisation à partir du moment où j'étais en retraite et je suis devenu professeur émérite. Et que j'ai travaillé plutôt à la direction parisienne que...
Qu'à Lille.
Qu'à Lille, voilà.
Alors on va reprendre la suite après.
Une deuxième suggestion de Jean-Paul. Cette fois-ci, c'est Jean-Roger Caussimon qui chante « La commune est en lutte ». Tu veux dire un mot, Jean-Paul ?
Oui. Et là, la commune est en lutte, c'est un petit peu mon mai 68, quoi. Mais bon, alors évidemment, en moins dramatique.
Un très bon chanteur, hein, Jean-Roger Caussimon.
Oui, et oui, nous connaissons sa fille...
Oui, qui était venu
ici. Qui est venu chanter ici à Villeneuve-d'Ascq.
Oui. Céline.
Céline, exactement.
Allez, on écoute « La commune est en lutte » de Jean-Roger Caussimon.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70... fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché. Pour fermer ses paupières, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Dans l'Est, à une heure d'affluence, un type dans les 26 ans, chapeau mou avec cordon remplaçant le ruban, cou trop long, comme si on lui avait tiré dessus. Les gens descendent. Le type en question s'irrite contre un voisin. Il lui reproche de le bousculer chaque fois qu'il passe quelqu'un. Tompleur Nichard, qui se veut méchant, comme il voit une place libre, se précipite dessus. Deux heures plus tard, je le rencontre, cours de Rome devant la gare Saint-Lazare. Il est avec un camarade qui lui dit « Tu devrais faire mettre un bouton supplémentaire à ton par-dessus. » Il lui montre où, à l'échancrure, et pourquoi.
Et pourquoi ? Donc c'est Raymond Queneau qui reprend ce texte. Aujourd'hui, c'est la version ensembliste. Dans l'autobus S, considérons l'ensemble A des voyageurs assis et l'ensemble D des voyageurs debout. À un certain arrêt se trouve l'ensemble P des personnes qui attendent. Soit C, l'ensemble des voyageurs qui montent, c'est un sous-ensemble de P et il est lui-même l'union de ses primes, l'ensemble des voyageurs qui restent sur la plateforme, et de ses secondes, l'ensemble de ceux qui vont s'asseoir. Démontrer que l'ensemble ses secondes est vide. Z étant l'ensemble des azous et Z minuscule l'intersection de Z et de ses primes, réduite à un seul élément. À la suite de la surjection des pieds de Z sur ceux de Y, élément quelconque de ses primes différent de Z, il se produit un ensemble M de mots prononcés par l'élément Z. L'ensemble ses secondes étant devenu non vide, démontrer qu'il se compose de l'unique élément Z. Soit maintenant P, l'ensemble des piétons se trouvant devant la gare Saint-Lazare, Z et Z', l'intersection de grand Z et de P, B, l'ensemble des boutons du par-dessus de Z, B', l'ensemble des emplacements possibles des 10 boutons, selon Z', démontrer que l'injection de B dans B' n'est pas une bijection. Et voilà.
Mais oui, c'est simple. Et alors, s'agissant d'un truc mathématique, scientifique, sérieux et grave, tu as employé un ton mutin et poétique qui était charmant.
En tout cas, on aime beaucoup ce livre, Exercice de style, ouais, de Raymond Queneau. Ouais. On vous le conseille.
Ouais, oui, vraiment.
Et on n'a pas fini les 99 versions. Hein. Alors, je dois dire qu'il y a quand même des versions qui sont complètement illisibles. Puisqu'il y a des mots avec les lettres à l'envers ou des choses comme ça. Donc je pense que celle-là, on ne pourra pas vous les présenter. Mais on revient à l'intérêt de cette émission, c'est l'entretien avec Jean-Paul.
Et donc on se retrouve à l'ENSAM de Lille et on parlait d'une centralisation même excessive, puisque j'avais posé la question à Jean-Paul de savoir s'il y avait une évolution dans la vie de cette école. Et donc le premier élément qu'il a cité, c'est la centralisation qu'on constate un peu partout, je crois. Hein. C'est pas, on n'est pas dans une période de libéralisation et de régionalisation, quoi qu'on en dise. Il y a toujours cette volonté dans les entreprises, par exemple, de centraliser dans la santé, c'est pareil. Qu'est-ce que tu voudrais dire sur cette centralisation?
Je pense que c'est dommage qu'on ait coupé les ailes de choses qui étaient particulièrement bien engagées.
Oui, parce qu'on coupe l'initiative.
Oui, c'est
on
ça.
On coupe l'initiative.
On déresponsabilise les gens et c'est vraiment dommage.
C'est ça.
J'ai toujours apprécié, moi, qu'on puisse absolument écouter tous ceux qui sont concernés par une tâche quelconque.
Enfin, oui.
C'est un petit peu comme ça que j'ai essayé de gérer mon laboratoire. Enfin, en tout cas, je...
Ben oui, c'est bien l'initiative, surtout dans... Oui. Oui. Ce qui est lamentable, c'est qu'on transforme, alors j'exagère un petit peu, les gens en... Ce qui compte le plus, à un moment, dans une organisation très centralisée, c'est le respect de la procédure, oui, plutôt que l'initiative et même la joie de vivre. Lydie me faisait observer, je ne me souviens plus où c'était... Tu m'avais dit, mais ces gens-là ne sont pas heureux. J'avais cité...
Ah oui, dans un magasin. On sentait, oui, qu'on les dérangeait, mmh, qu'ils étaient vraiment, oui, pressés.
Oui, 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 oui.
Et on le sent quand...
J'arrive pas à me souvenir où c'était.
Je ne sais plus.
Non, mais on le voit bien. Dans un hôpital en particulier.
Oui,
exactement.
On voit bien les équipes médicales qui sont heureuses de travailler ensemble,
oui,
et celles pour lesquelles il y a des rapports hiérarchiques extrêmement
excessifs,
et qui coincent tout le monde. Enfin,
oui, il n'y a pas d'épanouissement.
Et je pense que même centralisé, on peut trouver une joie de vivre et laisser l'initiative, et ça dépend de la direction de, oui, l'unité.
Oui. Oui. Du respect,
oui,
du,
oui, tout à
la
fait,
considération.
Tout à fait. Mm. Oui, oui.
Oh, j'ai envie de citer... Hein, une phrase un peu grossière. Mon frère faisait son service militaire il y a 50 ans, 60 ans. Et il était avec un adjudant et il discutait entre eux du règlement. Et l'adjudant a dit « Le règlement est une putain que chacun baise à sa façon. Bon, » C'était le rude langage militaire.
Merci non, Rémi, on l'embrasse d'ailleurs.
Ça dépend du regard qu'on a sur les choses et de son degré de soumission. Est-ce qu'on peut garder un petit peu d'autonomie, d'irrespect, de manière...
Et puis chacun doit être fier de ce qu'il fait au niveau où il se trouve. Enfin.
C'est ça.
Voilà.
Dans cette école, dans tes 17 ans, et puis après, puisque tu as poursuivi, après ta retraite, est-ce que tu vois un changement, ou tu as vu un changement parmi le public, c'est-à-dire les étudiants, des comportements différents,
Il y a le fait que l'on vieillit, et le jour où, par exemple, en cours, il m'est arrivé de parler de... Je ne sais plus pourquoi, ça n'avait rien à voir avec ce que je devais enseigner, mais quand on se met à parler à un groupe d'élèves, on se lâche un petit peu.
Oui.
J'ai fait allusion à mai 68 comme si c'était quelque chose qu'ils avaient vécu. Alors, ils n'étaient pas nés en 68.
Non, d'accord. Alors,
Bon, là, on voit une différence. Pas eu cette impression, en particulier manque de respect, choses comme ça. Je ne me suis jamais trouvé devant une situation qui me fasse penser ça.
Alors
je me suis rendu compte que chaque étudiant réagissait à la façon, à sa propre façon. Moi, j'ai l'impression toujours avoir trouvé une certaine porte ouverte pour le dialogue. Enfin, certain qu'on a une société qui évolue vers de plus en plus d'individualisme.
C'est ça. C'est peut-être ça,
tout à fait. On peut craindre que le Covid ait des conséquences très fortes dans cette direction-là.
Oui, en plus, exactement. Hein. Exactement. Ah oui. Et dans l'évolution de la pédagogie, non, il n'y a pas eu de changement, à part peut-être des techniques, je pense à l'informatique et tout ça.
Bien sûr, il y a eu des évolutions très fortes. Enfin, dans la façon d'enseigner, je pense que j'ai l'impression de n'avoir jamais utilisé la même façon d'enseigner d'une année sur l'autre. Enfin, j'ai toujours beaucoup préparé mes cours. Et me suis toujours trouvé devant mon amphi comme si je redécouvrais ce que j'allais enseigner. Et en général, ce n'était pas du tout ce que j'avais préparé.
C'est plutôt bien. Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est que, alors d'abord, il y a cette maxime qui est « Enseigner, ça n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu ».
Ah oui,
mais... Et donc, pour rendre le cours attrayant, je pense que l'enseignant ne doit pas se cacher derrière le contenu qu'il offre.
Non, mais c'est sûr.
Et malheureusement, j'ai constaté ça assez souvent. Mais pour ne pas se cacher derrière le contenu, il faut s'exposer soi-même. Se montrer tel qu'on est, avec éventuellement des carences et des erreurs.
Non, pas toi alors.
Non, moi c'est des erreurs, jamais de carences ni d'erreurs naturellement. De cette manière-là, on parvient à faire ressentir à l'étudiant, à l'élève, l'intérêt de ce qu'on est en train d'enseigner. Sinon, alors dans une école de commerce, on enseigne des trucs, des statistiques aux ressources humaines, en passant par la finance, etc. C'est très vrai. Et l'étudiant a du mal, et c'est normal, à comprendre ce qui est vraiment intéressant, quelle matière est vraiment importante, plutôt. Et je pense que ça dépend de l'enseignant.
Oui, toujours.
On va faire une petite pause maintenant.
Faisons une petite pause.
Alors, un troisième choix de Jean-Paul, Mercedes Sosa.
Gracias a la vida.
Tout simplement, gracias a la vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Un chocoin de Parigi.
Ma camarade, il va lire le chronique.
Après le portugais, l'espagnol, je vous parle
voyage,
en ch'timi. Une petite rubrique qui s'appelle « Faut pas être précis ». Précis, je croyais que c'était précis, donc c'est pressé. Il y en a un jour où je m'énerve pas. T'as, par exemple, l'autre fois, j'arrive à le chaise d'une grande surface et au moment de payer, il me dit que j'ai dans le bon prix. Alors j'atteins. Et le lendemain, tout dit dans la même surface à une autre chaise. Je tique devant lui, il y en a un pesé chez Banane. Et j'atteins encore. Et sur le lendemain, j'arrive à le Majon avec mes produits et quand je sais que je vaux, que le date est dépassé. Si avec tout ça te déprime pas au bout d'un moment, alors je comprends pas. T'as un autre exemple. L'autre fois, également, encore une faux pour moi, je vais pour prendre ma journal chez le libraire, et pour une fois que j'ai tout à la vache, il y a un pépé à une mémé qui commence à faire le loto. Quelle affaire. 10 minutes que j'ai attendu. Après ça, ben sûr, je suis tché dans les embouteillages. Et en arrivant à Tnouvrache, Kouché Katro va dire « T'as une sale tête aujourd'hui, Tché
?» Voilà. Merci à Jean-Pierre Delahotte de Sizouin. Et on reprend donc l'entretien avec Jean-Paul. Vous êtes sur Radio Boomerang 89.7 FM.
On arrive à un moment où Jean-Paul quitte ses fonctions pour toucher par la limite d'âge, il prend sa retraite.
Limite d'âge, si l'on veut. Enfin, c'est surtout un cancer qui m'a,
tu
m'a occupé à ce moment-là. Donc, j'ai eu un cancer en 95 qui a été soigné. Enfin, et bon, je dois dire que si je suis encore en vie, c'est probablement dû à l'initiative de mon épouse. Les médecins voulaient m'opérer le jour même
de la découverte.
Et en fait, ma femme s'est décarcassée pour que j'aie un entretien au CHR de Lille.
Oui.
Avec une sommité de ce genre de problème. Et qui, après examen sérieux, a dit que le mieux était
de ne pas opérer
tout de suite, mais de commencer par
un traitement, une chimio peut-être,
radiothérapie.
Ah, d'accord. Voilà.
Et donc la radiothérapie a permis de réduire la tumeur et d'opérer dans de meilleures conditions.
D'accord. Ouais. Heureusement.
Voilà. Donc ça, c'était en 95, mais il y a eu des complications qui sont apparues après. Je pense que la radiothérapie avait dégradé beaucoup.
A fait du dégât.
Dans les tissus. Et peut-être que le ciblage n'était pas parfait, ou des choses comme ça. En tout cas, j'ai dû interrompre mon activité. Officiellement, en 99... Ce qui m'a quand même permis de continuer encore pendant 3 ans en tant que, je dirais, bénévole. Enfin,
très bien.
J'ai abandonné la direction du laboratoire, mais je me suis occupé de fonctions plutôt à la direction parisienne. Mais malgré tout, il a fallu que je repasse sur le billard en 2003.
Oui.
De manière, cette fois-ci, beaucoup plus grave.
D'accord.
Voilà.
Donc ça t'a mis de côté un certain nombre d'années.
Oui, c'est ça. Oui.
Et est-ce qu'on peut dire que tu as repris une vie, entre guillemets, normale quelques années après? Une vie adaptée, j'imagine.
Une vie adaptée, voilà. Maintenant, je vis avec une poche. Je ne croyais pas qu'on pouvait vivre comme ça, mais maintenant... ça fait presque 20 ans que je suis équipé de cette façon.
D'accord.
Donc, je vis normalement, je dirais.
Et tu occupes ton activité. J'ai entendu dire que tu t'étais intéressé à une langue que tu ne connaissais pas particulièrement, qui est l'espagnol.
Oui, donc des amis avec qui nous avons passé pas mal de temps, rencontre tout à fait intéressante, mais qui faisaient, eux, l'effort de parler français.
Oui.
Ce qui me donnait quand même quelques complexes, et j'ai eu le malheur de dire « Ah, si seulement j'apprenais l'espagnol, ce serait bien de pouvoir converser avec vous ». Et nous étions à Barcelone le jour de la fête du livre, à la Saint-Georges, c'était mon anniversaire aussi, en plus. Et ce jour-là, on offre un livre aux hommes et une rose aux femmes.
C'est charmant.
Voilà. Et
un peu macho, mais charmant.
Les femmes ne savent pas lire.
Tout à fait.
C'est ça que j'allais dire.
Non, mais attendez, je vais vous raconter la suite, c'est rigolo. Et donc, une pile de livres énorme qui était « La Sombra del Viento ». Voilà, je t'offre ce livre, tu le lis, et donc j'ai commencé à le lire avec le dictionnaire. Et arrivé à la page 150, ma femme me dit « qu'est-ce que tu lis au fait? Quelle est l'histoire ?» Je lui raconte, elle me dit « bah oui, on a le livre dans la bibliothèque, il est traduit en français.
» Mais Jean-Paul, je t'interromps, c'est un effort extraordinaire de lire un livre dans une langue qu'on ne connaît pas,
J'étais un peu débourré, comme on peut dire, avec la connaissance du portugais.
Ah oui.
Portugais que je pratiquais, je savais enseigner la mécanique des flûtes, c'est à peu près tout. Et donc, vocabulaire limité. Mais malgré tout, il y avait un petit embryon, quoi.
D'accord.
Et puis... puis bon, le latin, tout ça, ça
un peu, tu as fait un peu d'anglais ou d'allemand?
Oui, j'ai fait de l'anglais, pas fait d'allemand. Mais donc, voilà, alors à partir de cette 150e page, j'ai pu continuer. Alors cette fois-ci, je m'obligeais à traduire toujours de la même façon, mais je pouvais me relire dans la version française.
Ah, très bien, oui.
Voilà. Après, je me suis dit, il ne faut pas que je m'arrête en si bon chemin. J'ai voulu suivre des cours au CUEP. J'ai eu un très, très bon enseignant. On était un groupe d'adultes, là. Voilà, c'était un cours très sympa. Bon, 2 heures de cours par semaine, c'est quand même pas énorme. Et malgré tout, cet enseignant est parti au bout de quelques mois. Et il a été remplacé par une jeune fille charmante, mais absolument pas du tout adaptée à des enseignants adultes. Ouais. Et donc tout le groupe s'est dissous, enfin, chacun est parti de son côté. Et puis je suis resté 2 ans peut-être sans
enseignant.
Voilà, sans enseignant. Et un beau jour, je me suis dit, mais si j'allais voir à l'université, puisqu'on y enseigne quand même l'espagnol, j'y suis allé. Alors, au CUEP, on m'avait demandé de passer un examen pour m'inscrire à un groupe. Et là, à l'université, on me dit, mais monsieur, j'ai beau diplôme, vous pouvez vous inscrire où vous voulez. Et donc, je me suis, en promettant à ma femme d'y aller pour quelques cours qui m'intéresseraient, et puis c'est tout. Et puis finalement, je suis resté à tous les cours. Et j'ai passé la licence au bout de 3 ans.
Bravo. Très bien.
Voilà.
Mais tu as poursuivi.
Alors après, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc j'avais été très intéressé par les cours de 2 enseignants, un enseignant en littérature et un enseignant en histoire de civilisation espagnole.
Mais enseignement qui était délivré en espagnol ou en français?
Ah oui, en espagnol.
En espagnol.
En master, oui, en espagnol, en grande majorité.
Tu avais atteint le niveau suffisant pour comprendre ce qui se passait?
Après la licence, oui, quand même.
Ah oui, oui. D'accord.
Bon, ce que je peux reprocher à l'université, c'est de prévoir dans les programmes qu'une heure d'enseignement oral.
Hein. C'est peu, c'est peu.
C'est très peu. Et par contre, à matracal, etc., c'était un peu une torture au début.
Enfin. Excessif, oui.
Et puis, mais bon, malgré tout, je ne sais plus à combien nous étions commencé. Quand je me suis retrouvé au milieu de tous ces jeunes, ça m'a fait un petit quelque chose. Enfin, j'avoue que j'étais très intimidé.
Ah oui.
Et nous étions deux adultes au milieu de toutes ces petites midinettes. Il y avait un autre enseignant qui avait peut-être 20 ans de moins que moi, mais enfin malgré tout, qui était déjà en poste. Parfaire sa connaissance de la langue pour pouvoir l'enseigner au lycée. Donc faire ses cours habituels d'histoire, mais le faire en langue espagnole.
Ça te prenait, je ne sais pas, par semaine ou par mois, un nombre d'heures important?
Ah bah oui, avec tout le travail à faire à la maison, comme on dit.
Qu'est-ce qu'on dit, une dizaine d'heures, une quinzaine d'heures?
Ah bah beaucoup plus.
Beaucoup plus.
Ça m'a bouffé mon temps.
Une activité à temps plein, par
exemple. Voilà, une activité d'étudiant. Enfin, là,
c'est extraordinaire. Ta femme était ravie, alors?
Absolument. On veut encore.
Donc on est en master, master 1, master 2.
Oui, c'est ça.
Et ensuite?
Alors ensuite, j'ai interrogé les deux enseignants qui me plaisaient. Puis finalement, j'ai opté pour civilisation espagnole. On me proposait éventuellement une thèse sur l'histoire de la guerre des Flandres.
Ah, très bien, très intéressant.
Voilà, donc relié avec l'histoire régionale.
Oui.
Donc cette fameuse guerre des Flandres, non pas celle dont on parle de la guerre 14, mais la guerre de 1500, du 16e siècle.
Oui.
Et donc, c'est une thèse que je n'ai pas finie, sur laquelle je suis encore, sur
Il est prévu.
L'étude des historiens espagnols de la guerre des Flandres. Et en particulier, les historiens espagnols qui vivaient du temps de cette guerre. donc les contemporains de cette guerre.
Oui, oui.
Voilà, donc c'est des textes qui sont des années 1500.
Mais alors pas écrits dans le même espagnol que l'espagnol actuel.
Oh, oui, ça pose pas énormément de problèmes.
D'accord.
Par contre, en version manuscrite, alors c'est absolument pour moi illisible.
Ah oui. Ah oui.
Mais par contre, imprimé...
On y arrive. Mais il n'y a pas eu, en espagnol, une évolution aussi forte qu'en français.
Il y a eu une évolution.
Parce que le français de maintenant et le français du 15e...
Le français déjà, 16e siècle, commençait à être... on était quand même à la veille d'apparition de Corneille et tout ça, quand
d'accord,
même, à Montaigne.
Hein, d'accord.
Bon, je sais bien que les livres de Montaigne sont difficilement lisibles, mais malgré tout,
Et tu penses soutenir cette thèse
Me demande pas quand, alors là je refuse
c'est la question.
De répondre.
Monsieur, nous avons les moyens de vous faire parler. Mais quoi, il te faut encore un an ou deux?
Je ne sais pas, je dis quelques mois à ma femme, mais c'est pas sûr. Hein.
Bon, en tout cas c'est formidable.
Ah oui.
Ah oui, bravo.
On est impressionnés.
Ouais.
Ben voilà, ce que je découvre, c'est qu'on ne s'improvise pas historien. C'est vraiment une formation supplémentaire extrêmement pointue. Voilà. Bon,
bravo.
Je me suis toujours intéressé à l'histoire, mais m'aperçois que la pratiquer n'est pas simple.
C'est une autre approche intellectuelle que...
C'est facile de se raconter une histoire, mais quand il faut s'appuyer sur des documents, c'est une autre paire de manches. Il ne s'agit pas d'inventer l'histoire, il s'agit de la dire de la manière la plus...
Est-ce que l'histoire la plus objective, tu
la
allais
plus
dire
objective
possible. Mais est-ce que l'histoire peut être objective?
Bien sûr que non, pas tout à fait, mais
il faut
toujours le narrateur qui intervient dans cette affaire. C'est lui qui établit le fil de l'histoire. Mais malgré tout, il ne doit pas s'échapper par des voies de traverse à inventer des situations qui n'ont pas existé.
D'accord.
Voilà.
On pourrait en parler des heures, hein.
Oui, on pourrait.
Mais là, malheureusement, il y a une limite.
Passionnant. Malheureusement, il y a le chronomètre qui nous oblige à interrompre et même à cesser. Un très grand remerciement d'avoir accepté de répondre à...
Merci beaucoup, Jean-Paul.
Question. Oui, c'était très intéressant.
Moi, je n'ai pas dit le quart de la moitié, ce que je voulais dire.
Comment?
Écoute, on te réinvitera, là.
Et moi, j'ai pas posé la moitié des questions que j'aurais voulu poser. C'est toujours comme ça.
Et voilà, l'émission se termine. On espère que vous avez passé un bon moment.
Hélas, trop vite comme d'habitude.
Oui. On vous retrouve avec plaisir la prochaine fois. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.
Merci, au revoir à tous. Au revoir Lydie, au revoir Jean-Paul.
Merci beaucoup Jean-Paul.
Et merci.
Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardis.